Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, bienvenue dans le débat du jour. La polémique sur le burkini a occupé, vous le savez, l'espace médiatique tout le mois d'août. Outre la question de l'interdiction de ce maillot de bain intégral, de la médiatisation du phénomène, la polémique a aussi posé la question de la place de la femme dans l'espace public. Comme le voile, le maillot de bain intégral a donc poussé des militantes des droits de la femme à se questionner, se positionner, voire se repositionner. Et toutes n'ont pas la même réponse. Islam, voile, burkini, le féminisme est-il en train de se redessiner? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir trois invités, trois féministes avec nous par téléphone. Christine Ledouard, et bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, cofondatrice du réseau féministe et laïque Les Vigilantes. Deuxième invité, toujours par téléphone, Anan Karimi, en direct de Strasbourg. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous dites féministe musulmane, on va en parler. Vous êtes par ailleurs doctorante en sciences sociales à l'université de Strasbourg. Et puis à mes côtés en studio, Shala Shafik, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivaine, sociologue, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Le dernier s'intitule « Demande au miroir », il est paru en 2015 aux éditions L'Âge d'Homme. Alors Shala Shafik, vous êtes née en Iran, vous y avez grandi. L'Iran, une société dans laquelle les femmes sont obligées de se voiler, une société dans laquelle les femmes prennent parfois, notamment sur les réseaux sociaux, on l'a beaucoup vu ces derniers mois, des risques pour se dévoiler. La question du burkini en France cet été vous a-t-elle bousculé dans vos réflexions sur ce thème?
Pas moi, puisque si vous voulez, j'étais confrontée dans mon parcours personnel dans ma vie, mais aussi dans mes réflexions, dans mon écriture, à ce sujet de voile, ça m'a été imposé de manière très violente à partir de la révolution iranienne que j'ai vécue.
Et alors, avec oui. Cette expérience qui est la vôtre, est-ce que vous considérez, puisque finalement c'est un petit peu la question latente hein, qui est derrière toute cette polémique, est-ce que vous considérez qu'un féminisme musulman aujourd'hui c'est possible?
Je considère que, pour revenir sur la question de voile, c'est-à-dire, il faut dire qu'à cette époque, nous avons été, en tant que moi, j'étais étudiante à l'université, nous avions dans nos universités, quelques années avant la révolution, l'apparition d'un nouveau voile qui n'avait rien à voir avec les voiles de grand-mère qui se voulaient traditionnels, imposés quelque part, mais un voile choisi et revendiqué parmi les étudiantes à l'université qui se voulaient un voile libérateur et révolutionnaire. Et nous, quand on discutait entre nous, il y avait beaucoup d'entre nous pensaient que c'était un phénomène secondaire. Et après la révolution, quand les islamistes ont pris le pouvoir dans une révolution qui était antidictatoriale quand même, ils ont imposé le voile et à partir de là, la résistance des femmes iraniennes a commencé ce dont vous parlez. Maintenant, pour revenir à ça, et si vous voulez, le terme féministe islamique aussi a eu comme berceau quelque part la société iranienne, puisqu'il y a des chercheuses ou des chercheurs à l'université ici qui ont, à partir de l'expérience iranienne, inventé ce concept.
Donc pour vous, ce concept, il existe.
Je vais peut-être demander. Non, mais il existe, mais il a été inventé. C'est pas à partir de voilà. Et le fait, pour moi, en résumé, on peut être musulman et féministe, mais ajouter un adjectif islamique au féminisme, ça apporte plus d'impasse qu'autre chose.
Alors, Anan Karimi, votre avis sur la question? Je sais que vous dites, attention, je ne suis pas féministe islamique, mais je suis féministe musulmane. Expliquez-nous pourquoi cette différence.
Et je vais corriger aussi, je suis féministe et musulmane, parce que le féminisme ne s'arrête pas à une quête d'égalité dans ma communauté religieuse, mais également dans la société dans laquelle je m'inscris, qui est la société française. Et Shala Shafik, que je salue au passage, a raison de préciser que le féminisme islamique est à contextualiser, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches universitaires qui ont été faites sur le phénomène, mais que lorsqu'on est dans une théocratie ou dans une société où la politique est basée sur l'interprétation religieuse, c'est très différent que d'être inscrite dans une société laïque et séculière dans laquelle la religion ne fait pas loi.
Donc vous êtes en train de dire, Anan Karimi, que vous n'êtes pas une féministe d'un type particulier, vous êtes féministe et en plus vous êtes musulmane. C'est juste un adjectif qu'on ajoute, c'est ça?
Absolument, c'est-à-dire que je suis une féministe au même titre que d'autres féministes dans la société qui luttons pour l'égalité avec toutes les spécificités qui sont liées à la classe sociale, à l'appartenance ethnique ou religieuse. Et on le voit bien dans cette affaire de Burkini, à quel point ça peut justement cristalliser les passions et perturber le bon sens selon là où on se situe. Et en même temps, dans ma communauté religieuse, parce que comme dans toutes les communautés religieuses, il y a des choses à travailler dans la question du genre.
Alors Christine Ledoire, sur votre blog, l'un des derniers posts, l'avant-dernier il me semble, s'intitule « Burkini, réanimer les féministes ». Vous avez l'impression, vous, que le féminisme est anesthésié en France aujourd'hui? C'est ça qu'il faut comprendre?
En quelque sorte, oui. Quand dans les années 70-80, les féministes s'affranchissaient de toutes les normes culturelles judéo-chrétiennes, elles n'hésitaient pas à brocarder les ligues de vertu. Aujourd'hui, elles se taisent trop souvent, malgré les demandes incessantes des féministes qui, dans les pays musulmans, les supplient de réagir. Quand elles ne se taisent pas, elles crient à l'islamophobie, elles se joignent au concert des pas d'amalgame. Elles ont peur d'être confondues avec les groupes racistes d'extrême droite qui, eux, instrumentalisent la menace islamiste, comme si elles n'avaient plus confiance dans leurs analyses et leurs jugements, et comme si elles avaient oublié que ce sont les hommes qui profitent du système patriarcal, que c'est à eux de se remettre en question, de s'éduquer, d'évoluer, et que les droits et libertés des femmes dans le monde entier, que ce soit ici ou ailleurs, ne sont pas négociables.
Alors, Challa Shafik veut vous répondre, mais je voulais d'abord vous poser la question assez simplement. Finalement, pour vous, ça veut dire qu'aucun compromis n'est possible. Le voile est un signe d'oppression. Il n'est donc pas compatible avec le féminisme pour vous?
Là, bon, on va. Le voile est un signe d'oppression. En tout cas, ce n'est pas une question de style de vêtement ni de liberté de s'habiller selon
ses goûts. C'est un symbole pour vous, oui.
La profusion de voiles, hijab, abaya, niqab, burqa, burkini qui envahissent les pays occidentaux, on voit bien qu'il y a une volonté d'imposer aux femmes une pudeur toute politique et d'imposer aux musulmans en général l'adhésion à un islam rigoriste. Le corps des musulmanes est l'étendard privilégié des intégristes pour moi.
Alors Challa Shafik, vous vouliez réagir à ce qu'est en train de nous dire Christine Ledoiré?
Oui, je pense qu'il faut, ça veut dire, en fait, réagir aussi avec un Karimi. Et tout d'abord, bonjour à mes interlocutrices. Les deux, si vous voulez, la question de ce que dit Christine, la remarque est tout à fait valable. Ça veut dire que quand vous allez même à l'extérieur de la France, en dehors de la France, vous voyez que le féminisme français pour la défense de l'universalisme est assez critiqué. Moi, je pense que la question doit nous interroger aussi au niveau international par rapport à une division. À des divisions, puisque tout d'abord, il y a des femmes, le droit des femmes, et il y a des différentes féministes. Mais le problème actuel, c'est que la question religieuse devient un repère identitaire qui s'impose partout.
Et qui cristallise un peu les passions autour de la question du féminisme.
Voilà,
c'est ce que vous
ça veut dire qu'en fait, c'est en plus de manière assez complexe. Ça veut dire, en fait, la question de, avant, quand on regardait au débat entre les féministes, la question des classes sociales, la question du racisme, la question, toutes ces questions-là qui sont posées légitimement, bien sûr, on peut être féministe, mais le féminisme, bien sûr, se greffe avec les particularités. Il y a des féminismes iraniens, il y a des féminismes marocains, mais qui sont liés aux évolutions sociales et politiques et les enjeux de chaque pays. Mais après, de mettre Islam comme un repère identitaire, c'est ça qui est le piège. Et malheureusement, dans le débat au niveau du féminisme, au niveau international, il y a des personnes qui prennent l'islam comme la religion comme une identité. Et là, l'universalisme qui est les droits humains universels, comme dit Christine, ça devient comme si ça devenait seulement blanc.
On va poser la question, voilà, c'est effectivement c'est la thèse d'une féministe tunisienne. Et je vais vous poser la question. Je voudrais d'abord redonner la parole à Anan Karimi. Comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit quand on entend, là vous avez eu deux personnes qui disaient un petit peu ça, que le port du voile peut être considéré comme étant un frein à l'émancipation de la femme?
Et il est vrai qu'interdire les femmes dans l'espace public n'est pas un frein à leur émancipation dans l'espace social, enfin la société française. Je veux revenir sur deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait Christine Ledoiré, le corps des femmes et politique. Et le corps des femmes minoritaires en France est aussi un enjeu politique. Donc ici, on est face à une domestication du corps des femmes racisées qui sont minorisées, qui sont discriminées socialement et économiquement, parce que les inégalités, comme tous les statistiques le montrent dernièrement, enfin on a eu des rapports qui ont été rendus dernièrement sur l'inégalité à l'école ou à l'emploi, etc. Donc de leur situation de femmes issues de l'immigration musulmane, l'identification à l'islam est venue beaucoup plus tard, sont discriminées. Et donc on est face à des féministes qui ont finalement participé au rapport de domination qui avait des relents néocoloniales, et je vous renvoie au livre de Stella Magliani Belkacem sur les féministes blanches et l'Empire, qui ont finalement été dans une solidarité de domination plus que dans une solidarité de femmes de là où elles étaient, avec leurs spécificités.
Donc vous considérez par exemple que la thèse qui est développée dans le livre de Soumaya Mestiri, qui est sorti il y a quelque temps, donc Soumaya Mestiri qui est philosophe, professeur à l'université de Tunis et qui a écrit « Décoloniser le féminisme », vous considérez qu'il y a une pensée aujourd'hui féministe blanche en France, incarnée par exemple par Elisabeth Badinter, par Caroline Fourest, à laquelle vous n'adhérez pas ?
Et par Christine Le Doiré, c'est-à-dire qu'on est face à des féministes maternalistes, pour changer du paternalisme, c'est-à-dire qu'on a une domination de genre, mais on a aussi une domination entre femmes, qui sont des femmes qui disent non, mais vous ne pouvez pas prétendre à l'émancipation parce que vous continuez à porter quelque chose qui est le symbole d'une domination, comme si aujourd'hui, dans notre société, tous les attributs de la domination sexiste avaient disparu. Moi, l'appel que je lance ici, c'est à quand, et justement c'est ce qui s'est passé cet été avec le burkini, à un moment donné, des féministes qui se sont dit, face à la violence de ces quatre hommes qui est en train de demander à une femme de se dévêtir sur la plage, de dire ce n'est pas possible que d'accepter cette violence faite sur le corps des femmes sous prétexte d'égalité hommes-femmes, alors qu'on est en train, en fait, d'opprimer une femme.
Alors,
de violencer une
on
femme.
Va. Vous avez attaqué entre guillemets Christine Le Doiré. Christine Le Doiré, est-ce que vous avez l'impression d'incarner un féminisme maternaliste, comme vient de le dire Anan Karimi?
Non, je comprends bien ce qu'elle veut dire, mais en réalité, il faudrait m'expliquer pourquoi, alors que, parce que le féminisme universaliste, le féminisme a existé dans tous les pays du monde. Moi, j'ai connu des féministes du monde entier qui vivaient aussi sous culture, si elles n'étaient pas religieuses musulmanes. Et ce féminisme musulman dont on nous parle aujourd'hui, il a émergé dans les années 90-2000, simultanément à la montée de l'islamisme. Et pour moi, il s'agit d'islamisme et non de féminisme. Et ce féminisme islamique, il tente d'étouffer les féministes qui vivent dans ces pays et qui veulent, elles, s'affranchir de tous ces dictats politico-religieux voile en tête. Donc, c'est pas quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Le féminisme universaliste, il est attaché aux valeurs fondamentales du féminisme. Il revendique l'abolition des privilèges de la domination masculine et l'émancipation des femmes du monde entier. Quelle que soit leur origine, couleur de peau, culture ou religion, nous sommes toutes liées par un socle commun de discrimination et de violence.
J'allais justement vous poser la question du socle commun, puisque là, on voit bien vos différences d'appréciation. Pourtant, vous êtes toutes les trois féministes, vous le revendiquez toutes les trois. Shala Shafik, qu'est-ce qui aujourd'hui est, qu'est-ce qui forme le socle commun du féminisme incarné par Christine Le Doiré, comme par Anan Karimi et par vous?
Si vous voulez, quand Anan a parlé de l'immigration, de discrimination et de l'islam, moi je pense que cette articulation, ça nous ramène à des erreurs. Si vous voulez, bien sûr qu'il existe discrimination, bien sûr qu'il existe racisme, mais s'il existe, par exemple, par rapport au rapport à l'école, avec l'école qui a été publié récemment, moi, je travaillais aussi sur ces sujets, si vous voulez, les discriminations que subissent les populations ne viennent pas de leur appartenance à une religion. Donc, confondre ces sujets-là, ça crée une identité globalisante qui emprisonne les personnes. Si vous voulez, les populations migrantes en France peuvent être discriminées pour des raisons différentes de classe sociale, des quartiers, des questions de ghettoisation, mais ramener tout à la religion, ça va nous ramener à des divisions complètement inutiles.
Donc pour vous, la définition de son féminisme n'était pas la bonne, mais comment vous le définiriez aujourd'hui? Quel est ce socle? Qu'est-ce qui vous réunit toutes les trois?
Moi, je pense qu'il existe des valeurs égalitaires de l'égalité et de la liberté. Puisque, effectivement, si vous voulez, si vous prenez n'importe quelle loi religieuse, et même chez les islamistes qui se veulent modérés, ils disent oui, d'accord, les hommes et les femmes sont égaux. Mais dès que vous arrivez à la liberté sexuelle, il y a la question qui se pose et ils disent non, la liberté sexuelle occidentale, c'est blanche, etc. Et ça, c'est le piège.
Donc le combat pour la liberté, voilà. C'est pour vous ce qui doit former le socle commun de tous ces féminismes.
Articulation entre la liberté et l'égalité. Et si on se met d'accord sur cela, ces choses c'est-à-dire les choses secondaires disparaissent et après le vrai débat commence.
Alors on va voir justement si vous êtes d'accord sur ces fondamentaux. Christine Le Doharé, l'articulation entre la liberté et l'égalité, est-ce que vous vous y retrouvez?
Absolument, c'est pour moi essentiel et tout ce féminisme relativiste qu'on appelle aussi parfois intersectionnel, etc., fait la part belle au relativisme culturel, c'est de l'essentialisme, c'est racialiste, ça nous sépare les femmes au profit d'autres luttes. Voilà, moi je pense que nos luttes fondamentales sont sur nos libertés, sur l'égalité et toutes ces injonctions sexistes à la pudeur féminine fabriquer, etc. C'est ce marquage des femmes par les religions. Il n'y a pas que l'islam politique, il y a aussi toutes les religions, elles sont toutes passées par là. Et de toute façon, pour moi, inacceptable dans un pays laïque qui a mis au cœur de son projet de société l'égalité entre les femmes et les hommes.
Et Anan Karimi, vous aussi, sur cette question, liberté, égalité, est-ce que c'est pour vous le socle commun entre vos trois féminismes qui sont incarnés ce soir dans ce studio?
Liberté sexuelle aussi.
Liberté sexuelle.
Je vais jouer justement la dissidente parce que du coup on tombe dans quelque chose de politiquement correct alors que par exemple dernièrement il y a eu cet article sur Libération du le féminisme est-il trop blanc en France de Cécile Domas et effectivement on ne peut pas brandir la liberté et l'égalité sachant toutes les discriminations qui sont subies par ces femmes sous prétexte par exemple là ici qu'elles sont musulmanes visibles et qui sont complètement invisibilisées, c'est-à-dire que là, pour le coup, on n'a pas de réaction féministe aux violences qu'elles subissent quotidiennement parce qu'elles sont voilées et elles sont discriminées donc légalement parce qu'elles sont voilées, visiblement musulmanes. Et donc, effectivement, une égalité effective, il ne faut pas que ça reste des mots, c'est-à-dire une égalité, quelle que soit notre appartenance, notre couleur de peau. C'est pour ça que j'avais invité aussi une afroféministe à parler ce soir. C'est-à-dire que il y a des... Là, on parle... Alors, d'une position de blanche, et là, j'utilise le terme sociologique, c'est pas la couleur de peau dont je parle, c'est-à-dire de dominant en France, on peut dire le féminisme intersectionnel, ça m'intéresse pas. Mais quand on est femme, noire, handicapé, de classe sociale populaire ou précaire, eh bien, le féminisme intersectionnel, du coup, parle, et ça fait depuis les années 70 qu'il a été...
Alors, là-dessus, Chala Chafik... Oui, allez-y, terminez, je vous en prie.
C'est ce qui a permis l'émergence, justement, de ce concept de race classe genre, parce que des femmes subissent des intrications d'oppression, et ça ne peut pas arriver seulement quand on est une femme blanche. Parce que justement, il y a la classe sociale qui rentre là-dedans, et il y a la question du genre, et il y a la question
On a bien compris votre point de vue. Je voulais juste terminer peut-être sur une touche un peu positive. Chala Chafik, finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de rassurant à voir qu'il y a plusieurs féministes, parce qu'il y a aussi plusieurs manières d'être femme? Il nous reste quelques secondes, c'est une question, une large question, mais finalement, est-ce qu'on n'en est pas là aussi?
Bien sûr que c'est rassurant d'être féministe de différentes façons, mais il faut que le débat puisse exister. Et il faut que le débat puisse nous interroger par rapport à tous ces termes-là, puisque parler de termes blanches pour arriver à dire qu'être musulman, c'est aussi être une race, c'est très inquiétant, puisqu'il existe quand même des diversités, des profils des femmes musulmanes.
J'espère, en tout cas, Chala Chafik, que le débat a été lancé. Merci donc à vous, merci à Anan Karimi, et merci également à Christine Le Doharé, à Franck Baudin et à Hélène Avril pour la réalisation de ce débat. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission.